talmudique. Nous voilà comme Hamlet, saisis par le vent mauvais qui s'élève. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark et de nos démocraties en paix. Nos humanités nous rendent-elles inhumains ? Osez s'interroger avec inquiétude Georges Steiner il y a déjà longtemps. C'est la question terrible qu'il nous faut aujourd'hui affronter. Qu'est-ce qui, dans ce que nous avons de meilleur, peut conduire au pire ? Vers où porter l'espoir d'une vie bonne ? Pouvons-nous continuer de rêver un monde meilleur ? Devons-nous retrouver les voies de l'utopie ? Mais comment échapper à l'enfer de sa perfection et inscrire dans notre réalité le rêve qui nous maintient en vie sans sombrer dans la perfection de l'enfer des utopies réalisées ? Sur le chemin de l'utopie, nous rencontrons des écrivains, des théologiens, des philosophes et des scientifiques qui nous aident à ouvrir les portes de l'avenir, du pas encore advenu, de la nouveauté pure, des portes qui s'ouvrent sur des événements capables de nous étonner et de nous émerveiller. Parmi ces sentinelles du futur, la figure majeure d'Ernst Bloch tient une place privilégiée. Ce philosophe qui a traversé la toute fin du XIXe siècle et les trois quarts du XXe siècle fait partie de ces penseurs dont la parole, déjà entendue, est cependant encore à venir et vient vers nous aujourd'hui avec une force particulièrement bienfaisante. Mort à 92 ans, il laisse une œuvre essentielle dont le célèbre principe Espérance, en trois volumes, est l'esprit de l'utopie, titre qui est comme une enseigne de l'œuvre dans son ensemble. Comme dit Lévinas, qui lui a consacré un article important, la philosophie d'Ernst Bloch, qui de prime abord n'est qu'une interprétation du marxisme, est puissamment amplifiée par une attention tournée vers toutes les œuvres de l'esprit humain. En elle s'éveillent des harmoniques innombrables. La culture universelle se met à vibrer par sympathie. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le philosophe Arnaud Münster, l'un des disciples proches de Bloch et qui, par son enseignement, ses très nombreuses recherches, articles et ouvrages, contribue à porter cette œuvre et à la transmettre avec toujours autant d'enthousiasme. Arnaud Münster, bonjour.
Bonjour.
Arnaud Münster, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et je tiens à préciser pour les auditeurs que nous sommes en duplex avec les studios de Radio France à Nice. Je ne vous vois pas donc, mais je vous écoute avec une très grande attention. Vous venez de faire paraître aux éditions Hermann un livre intitulé « Du rêve à l'utopie » qui réunit un ensemble d'entretiens philosophiques qu'Ernst Bloch a accordé à la télévision, à la radio ou dans différentes publications, dont trois entretiens avec vous datant de 1977. Ce qui frappe dans ce livre, c'est la clarté des concepts. Je pense, par exemple, à la distinction que Bloch fait entre idéologie et utopie, définition qui pose les bases de sa réflexion et la possibilité pour nous, lecteurs, de le suivre dans ses développements. Alors, quels sont ces concepts d'idéologie et d'utopie, Arnaud Münster ?
Oui, en opposant l'utopie, ou plutôt l'esprit utopique, à l'idéologie, Ernst Bloch... On entame un dialogue avec le sociologue Karl Mannheim, qui dans son livre « Idéologie utopie » publié en 1929, avait déjà souligné le rôle, la fonction, soi-disant subversive des utopies, notamment par rapport aux représentations de la société existante, par rapport à l'idéologie. Et ce qui caractérise l'approche de Bloch, qui est tout à fait différente, c'est qu'en inventant le concept d'utopie concrète, il prend aussi ses distances à l'égard des conceptions classiques de l'utopie, telles qu'elles ont été développées et présentées dans les écrits, par exemple, des philosophes socialistes utopiques français du XIXe siècle, Saint-Simon, Fourier, etc., ou bien déjà au XVIe siècle, par Thomas More dans son célèbre Utopia de 1516. Il s'agit, pour Ernst Bloch, principalement, je dirais, tout en réhabilitant le concept d'utopie dévalorisé et méprisé par les partisans d'un pragmatisme réaliste et de ceux qui défendent l'ordre existant, en dénonçant comme utopistes tous ceux qui le contestent au nom de l'idéal de la possibilité réelle d'une société autre, plus juste. Donc, pour Bloch, il s'agit de substituer ce concept classique de l'utopie, à savoir l'utopie comme projection abstraite de l'image d'une société meilleure et d'un ordre social meilleur sur une île lointaine, Atlantide, ou bien Utopia, située dans l'Atlantique Sud, comme chez Thomas More, par le concept d'utopie concrète, défini désormais comme réalisation, hic et nunc, dans le réel, de l'esprit utopique, dans la perspective précise d'une transformation du monde vers le meilleur, ce qui n'est pas possible, selon Ernst Bloch, sans tenir compte aussi des contradictions réelles, économiques et sociales de nos sociétés.
Oui. À ce moment-là, quelle est la différence entre le rêve et l'utopie, puisque votre livre s'appelle « Du rêve à l'utopie », on a l'impression qu'il y a une progression, Arnaud Münster.
Oui, dans la pensée blochienne, les concepts de rêve et d'utopie sont étroitement liés, enchevêtrés. Donc,
Mais on sent une progression.
Il faut d'abord en préciser ce qu'il pense, quelle est la véritable conception du rêve chez Ernst Bloch.
Alors justement, j'allais vous demander, il existe une distinction importante que l'on rencontre dans les textes de Bloch, et en particulier dans les entretiens de cet ouvrage, la distinction entre rêve diurne ou rêve éveillé et rêve nocturne. Alors, comment Ernst Bloch insiste-t-il sur cette distinction, Arnaud Münster ?
Oui, évidemment, c'est dans le cadre d'un dialogue critique avec Freud, notamment une lecture critique de l'interprétation des rêves de Freud, que Ernst Bloch développe ce concept de rêve diurne. Évidemment, le reproche, la critique est faite à Freud, père fondateur de la psychanalyse, d'avoir trop privilégié les rêves nocturnes, donc qui viennent l'objet d'une étude scientifique, n'est-ce pas, de remémoration alors du patient, n'est-ce pas, pour reconstruire ainsi et pour trouver les raisons justement de la naissance des névroses. Donc, la critique blochienne, il n'est pas tout à fait opposé radicalement à la psychanalyse, etc. Mais il se permet cette critique parce qu'il pense que cette méthodologie freudienne est trop orientée vers le passé, alors que sa philosophie utopique, elle est prioritairement orientée vers l'avenir, vers le futur. Ce qui l'intéresse, donc, c'est pourquoi, donc, pour lui, Bloch, le rêve diurne est beaucoup plus important que le rêve nocturne, donc, qui est considéré, donc, comme il dit dans ses commentaires, les écrits de Freud dans le premier tome du Principe d'Espérance, alors comme chez Bloch, chez Freud, un réservoir, n'est-ce pas, de contenu refoulé, alors que chez Bloch, ce qui compte, c'est le rêve diurne, c'est le rêver en avant. Ce sont les images de souhait, de l'imagination utopique. Ce sont des images de souhait dans la conscience anticipante qui, par la médiation de la catégorie possibilité, la catégorie du possible, se transformer dans une praxis d'humanisation du monde, de transformation du monde vers un monde meilleur. C'est ça justement la différence. C'est ce qui explique donc sa méfiance à l'égard de ce concept freudien de rêve nocturne. N'est-ce pas? Donc, il faut dire aussi, il y a évidemment, si vous voulez, Bloch, sa pensée, son univers philosophique, c'est un véritable multiversum. Oui. C'est un multiversum qui jette un pont du rêve diurne au rêve en avant, du préconscient à la conscience anticipante, de l'espoir à l'espérance active. Donc, il n'a rien à voir avec la confiance aveugle dans un avenir meilleur et des figures de l'imagination utopique vers une praxis de l'utopie concrète ayant pour but l'humanisation, la transformation du monde. Vous voyez ? Donc c'est dans ces perspectives qu'il fait cette lecture critique de la psychanalyse ou de la conception.
Alors on va y revenir par la suite parce que j'aurai une question sur cette conception de la lecture de Freud. Mais avant, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur l'utopie au sens où, par exemple, vous l'avez dit, c'est une référence à More, une référence à Thomas More qui a écrit cette Utopia, et ça nous invite, cette référence, à comprendre que l'utopie se caractérise par un recours à la fiction, par un artifice littéraire qui consiste à décrire une société idéale dans une géographie imaginaire, souvent dans le cadre d'un récit de voyage, même si vous avez dit que pour Bloch, la notion de société idéale dans le futur n'est pas ce qui l'importe, mais la société idéale dans le présent. Mais c'est aussi à l'aune de la fiction que l'on évalue le danger dans lequel peut nous conduire une utopie. Et la question que je me pose, c'est quel est le rapport de Bloch à la fiction littéraire ? Un sujet, me semble-t-il, qu'il a dû discuter avec son ami Lukács, qui est auteur d'un célèbre ouvrage intitulé « La théorie du roman », Arno Münster. Comment a-t-il réfléchi à la fiction quand on sait que les utopies et les contre-utopies ont été souvent promues par des fictions littéraires, je pense à Orwell et 1984 par exemple, ou d'autres choses. Alors, comme l'utopie est fondée dans la littérature et que Bloch est le penseur de l'utopie, quel est le rapport naturel, peut-être presque ontologique, qui existe entre entre Bloch et la littérature?
Oui, cela fait le rapport voilà, de double nature. Alors, premièrement, c'est vraiment un rapport de fascination de Bloch par justement ces romans, si vous voulez, ces fictions, ces récits de voyage, n'est-ce pas, qui sont en réalité des romans d'État, notamment, par exemple, l'Utopie de Thomas More. N'est-ce pas, et en même temps, alors que d'une toute ça concerne aussi le travail qu'il a fait d'analyse alors des romans et des utopies de la Renaissance, Campanella, etc. Cette fascination, elle est aussi brouillée, donc elle est contrecarrée par, évidemment, par le danger qu'il ressentait, évidemment, par le fait qu'il y a parmi les utopies, des utopies qui ne sont rien d'autre que, on peut dire, de l'anticipation, donc, ou la peinture d'un ordre sociétal totalitaire.
Oui.
Donc, qu'il refuse. Ce qui a comme conséquence que dans le principe espérance, notamment le deuxième tome, consacré aux abrégés des utopies sociales, Bloch fait a priori la distinction entre deux catégories d'utopies. Il y a premièrement les utopies de l'ordre et les utopies libertaires.
Oui.
Donc celle de Thomas More est rangée, bien sûr, parmi les utopies libertaires. Celle de Campanella, avec ce régime répressif, on peut dire, est rangé dans la catégorie, donc dans la rubrique des utopies de l'ordre. Donc il y a une prise évidemment, Fourier avec son phalanstère, etc., c'est plutôt une utopie libertaire. Mais en revanche, alors, Cabet, n'est-ce pas, avec son utopie communiste, alors c'est plutôt une utopie assez totalitaire, presque pré-stalinienne, n'est-ce pas. Donc, bien sûr, dans ce conflit, Ernst Bloch prend très clairement position en faveur des utopies libertaires contre les utopies totalitaires.
Hein. Donc on peut dire
donc,
d'une certaine manière...
potentiellement totalitaire. Oui. Pris contre les eaux, contre les dystopies aussi, alors que celle d'Orwell, par exemple, n'est-ce pas, donc, qui esquissent une société, également une société bureaucratisée, totalement de surveillance totale, et donc une société totalitaire. Voilà.
Oui, alors ces dystopies nous mettent cependant devant les yeux le danger des utopies, je dirais, d'ordre dont vous venez de parler. Et si je comprends bien ce que vous venez de dire, Ernst Bloch, dans son principe espérance et dans son œuvre en général, nous donne les outils intellectuels pour distinguer entre les utopies qui peuvent être nous amener réellement vers une vie meilleure et celles qui nous amènent vers l'ordre totalitaire. Arno Münster.
Oui, absolument. C'est la finalité de ce grand parcours à travers l'histoire des utopies de Platon, de l'état de la République de platonicienne, donc jusqu'aux utopies d'Orwell. Ça, c'est la finalité, c'est de montrer qu'il y a évidemment deux tendances qui s'imposent en ce qui concerne les utopies, qu'il y a qu'il y a évidemment des utopies de l'ordre et des utopies libertaires. Il montre très bien, il veut aussi, alors ça c'est son intention, est aussi de montrer, de mettre en évidence à quel point donc les utopies, comme par exemple une utopie comme celle de Thomas More, évidemment, a pu influencer l'histoire même de sociale et politique des siècles après lui, notamment par exemple la Révolution française ou d'autres mouvements sociaux, etc. Même s'il s'agit là aussi d'une fiction, d'un récit de voyage, d'un roman d'État, il est évidemment, il y a là dans cette utopie un ferment, on peut dire, une sorte de ferment révolutionnaire, donc qui a été bien compris par les philosophes sociaux du XVIIIe et du XIXe siècle, n'est-ce pas? Et l'intention primaire de Bloch est évidemment, bien sûr, de sauver de protéger en un sens
les bonnes
l'histoire,
utopies.
L'héritage des utopies, en oui. opposant les bonnes utopies aux mauvaises utopies, évidemment, oui. celles de l'ordre, qui un ordre totalitaire ou qui anticipe sur une société totalitaire. C'est précisément celle que le XXe siècle a réalisée, n'est-ce pas, sous le fascisme et le stalinisme.
Le Boléro n'est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l'histoire d'une colère, d'une faim. Je connais la faim. Je l'ai ressentie. Enfant, à la fin de la guerre, je suis avec ceux qui courent sur la route à côté des camions des Américains. Je tends mes mains pour attraper les barrets de chewing-gum, le chocolat, les paquets de pain que les soldats lancent à la volée. Enfant, j'ai une telle soif de gras que je bois l'huile des boîtes de sardines. Je lèche avec délice la cuillère d'huile de foie de morue que ma grand-mère me donne pour me fortifier. J'ai un tel besoin de sel que je mange à pleine main les cristaux de sel gris dans le bocal à la cuisine. Cette faim en moi, je ne peux pas l'oublier. Elle met une lumière aiguë qui m'empêche d'oublier mon enfance. Sans elle, sans doute n'aurais-je pas gardé mémoire de ce temps, de ces années si longues, à manquer de tout. Être heureux, c'est n'avoir pas ce souvenir. Ai-je été malheureux? Je ne sais pas. Simplement, je me souviens un jour de m'être réveillé, de connaître enfin l'émerveillement des sensations rassasiées. Ce pain trop blanc, trop doux, qui sent trop bon, cette huile de poisson qui coule dans ma gorge, ces cristaux de gros sel, ces cuillerées de lait en poudre qui forment une pâte au fond de ma bouche, contre ma langue, c'est quand je commence à vivre. Je sors des années grises, j'entre dans la lumière, je suis libre, j'existe. C'est d'une autre fin qu'il sera question dans l'histoire qui va suivre. Arnaud Münster, je viens de lire sur la musique du Boléro de Ravel un texte du dernier roman de Jean-Marie Le Clézio qui s'appelle « Ritournelle de la faim ». Et si j'ai choisi à la fois cette musique Et ce texte, c'est parce que je pense qu'il y a un lien essentiel entre le rêve et le pain. Deux mots qui, en hébreu, sont écrits des mêmes lettres, chalom et lechem, et qui constituent, selon une lecture que je propose, les deux moteurs de l'histoire biblique. C'est en effet la famine qui fait descendre en Égypte, et c'est le rêve qui fait descendre Joseph en Égypte, et c'est ensuite l'interprétation des rêves de Pharaon par Joseph qui vont transformer le pays d'Égypte, son économie et rendre possible sa survie. Voilà un rêve nocturne et qui ouvre à l'utopie sociale, la transformation de la réalité, qui introduit du nouveau. Et Ernst Bloch, qui était grand lecteur de la Bible, a sans doute été sensible à cette articulation du rêve et du pain, car il met la faim au centre de sa philosophie, comme vous le précisez dans la préface de votre livre. Et pour lui, la faim est l'une des problématiques centrales de notre époque, où d'ailleurs aujourd'hui encore, selon certaines statistiques de l'ONU, plusieurs milliers de personnes meurent chaque jour de la faim. Arnaud Münster.
Oui, c'est tout à fait vrai.
C'est-à-dire que dans ce que je dis,
oui.
Il y a deux questions dans ce que je viens de dire. J'essaye de, comme on se voit pas, je rappelle pour les auditeurs que nous sommes en duplex, alors que c'est peut-être un peu plus compliqué, le dialogue est un peu plus, subtil. Et donc, il y a deux choses dans ce que je vous demande. D'une part, la place de la faim dans l'œuvre de Bloch, mais en même temps, il y a une question par rapport à Bloch et sa lecture de Freud et de la psychanalyse. Car chez Freud, comme dans le texte biblique, le rêve ne prend sens qu'à partir de son interprétation, qui permet justement le changement radical de l'histoire, comme c'est le cas ici de Joseph, qui, interprétant les rêves, va rendre possible de surmonter la famine. Et la question, c'est que Bloch dit « le rêve nocturne reproduit », alors que le rêve diurne produit, et j'ai l'impression que si on s'attache non seulement au rêve comme image du passé, mais qu'on l'interprète, il y a toujours la possibilité, par l'interprétation, de donner au rêve une place qui est moteur de l'histoire et de la transformation, et en particulier dans cette question du pain. Arnaud Münster.
Oui, je voudrais, vous avez parfaitement raison de souligner cet aspect. Je voudrais seulement rappeler évidemment que en ce qui concerne le problème de la place de la faim dans l'œuvre de Bloch, que ça apparaît évidemment dans le premier tome du Principe Espérance.
Oui.
Ça, c'est sous la forme d'une, c'est évidemment de la continuité du dialogue critique avec Freud, qui est déjà engagé avant à propos du rêve et des rêves diurnes et des rêves nocturnes. À partir du moment où sa réflexion va aussi aller jusqu'à de questionner la doctrine freudienne des pulsions.
Oui.
Et c'est dans le cadre justement de cette confrontation qu'il va évidemment contester la théorie freudienne de la mesure, où au moins il va contester l'ordre de priorité en ce qui concerne les pulsions de la doctrine freudienne, dans la mesure où pour lui, Ernst Bloch, la faim vraiment au sens matériel du terme, la faim comme cette carence, souffrance physique, etc., ça prend pour lui c'est la pulsion première et fondamentale dans l'homme.
Mmh.
Et non pas la pulsion sexuelle comme chez Freud. Donc il y a contestation, vous pouvez dire, donc du pansexualisme de la psychanalyse freudienne par Ernst Bloch.
Oui.
Avec cette, justement, par le recours à cette théorie, donc où la faim devient donc est considérée comme la toute première pulsion. Tout simplement parce qu'évidemment, elle pense que la fin est première, n'est-ce pas? Parce qu'on peut bien, à la rigueur, vivre sans sexualité, etc. Mais on ne peut pas vivre sans manger, sans s'alimenter. Mm-hmm. N'est-ce pas? Donc sans cet métabolisme avec la nature, n'est-ce pas? Qui est aussi constamment souligné par Marx.
Oui.
Donc, par l'homme travaillant. Donc c'est ça, c'est l'essentiel de la démarche de Ernst Bloch, c'est ça, c'est-à-dire c'est encore une fois donc un questionnement critique qui concerne Freud, le père fondateur de la psychanalyse, et c'est évidemment la pulsion. Alors Bloch va de la pulsion, il va vers la poussée, une sorte drang, il dit en allemand. Alors, ça veut dire qu'il y a donc une sorte d'incitation, une force, n'est-ce pas? Une force qui pousse en avant. Et le rêve diurne, vient accompagne cela. C'est vrai. Donc, il permet à l'homme à vivre, à survivre sur des conditions difficiles, n'est-ce pas?
Alors, ce qui est très...
Mais évidemment, ce qui est tout à fait première, c'est cette fin. Il faut satisfaire cette fin. Donc, c'est la première pulsion fondamentale de l'homme.
Alors, ce qui est
C'est ça ce que veut dire Bloch.
Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que en hébreu, on voit très très bien dans la Bible que cette faim, la famine, est le moteur permanent de l'histoire.
Oui.
D'ailleurs, le plus petit verset de la Bible, qui a trois mots, c'est « Vayehi ra'av ba'aretz », il y avait la famine dans le pays, et à chaque fois, ça met en mouvement, ça met en voyage, ça fait passer de l'autre rive, si on peut dire, et parce qu'on peut noter qu'en hébreu, le mot « faim », la famine, « ra'av », sont les mêmes lettres, dans un ordre différent, du mot « avar, du verbe passer, le passage. Donc je pense qu'il y a une très grande proximité entre la pensée de Bloch et la pensée biblique. On y reviendra dans une seconde émission.
Je pense qu'il a fait tout à fait, c'est tout à fait possible. Même si dans ce texte, évidemment, que je cite, dans le chapitre concernant la fin, la plus compulsion, dans le principe espérance, disons, ces références bibliques n'apparaissent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas, évidemment, ce recours, et à d'autres moments, évidemment, d'autres moments de la pensée religieuse ou de sa philosophie de la religion, etc. Il y a ce rapport, mais il n'est pas spécifiquement, on peut dire, cité explicitement là, présent dans ce texte concernant évidemment la fin, comme propulsion première chez Ernst Bloch, mais on ne peut pas exclure évidemment qu'il a aussi un peu pensé à cela, n'est-ce pas? Il y a ce parallélisme, n'est-ce pas? Donc, notamment parce qu'il pense constamment aussi, en permanence, réfléchit sur l'Exode, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël,
la conduite de Moïse. Alors là, nous allons y revenir.
Moïse, etc.
Nous allons y revenir. Alors, c'est bien que vous évoquiez la sortie d'Égypte, parce que notre émission passe le dimanche qui est le lendemain des deux Sédarim, des deux soirées pascales de la Pâque juive. Donc nous sommes en plein dans ce sujet. La dernière question pour cette première émission, Arnaud Münster, c'est est-ce qu'il y a chez Bloch, dans son utopie, dans son rêve, une utopie de l'Europe et une utopie de la paix ?
Il y a, je dirais, une utopie de la paix, une utopie de l'Europe, je ne sais pas, parce qu'il est, il est peut-être trop internationaliste, trop attaché à un universalisme à la fois juif et peut-être socialiste. Alors, une utopie de la paix, oui, absolument. Il faudrait voir, donc évidemment, toute...
On l'abordera peut-être dans la seconde émission, si vous voulez bien.
Oui.
En tout cas, alors...
C'est-à-dire, vous savez, il y a une... Il était, dès sa jeunesse, très attaché au pacifisme.
Hein. Oui.
C'est un pacifiste, Bloch. C'est quelqu'un qui, justement, si vous comparez l'attitude d'Ernst Bloch à d'autres intellectuels juifs et autres pendant la Première Guerre mondiale, vous allez être frappé par le fait que lui était vraiment... très attaché au pacifisme, à tel point donc il détestait le régime de l'empereur Guillaume II, cette monarchie, etc., à tel point qu'il a quitté, qu'il s'est exilé volontairement en Suisse, comme d'ailleurs Walter Benjamin et Gershom Scholem, et d'autres. Il ne voulait absolument pas faire la guerre du côté de l'empereur Guillaume II. Donc, il a toujours, on veut dire, été très conséquent à ce point. Il était même, donc, également recherché, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui n'avait pas du tout l'attitude patriotique qu'on exigeait.
Oui. Et
alors, à la différence d'autres, alors, il y a eu d'autres oui. intellectuels juifs qui avaient une tue tout à fait différente, n'est-ce
oui.
pas, Max
alors,
Weber, ou par exemple, qui a lu avec l'uniforme de réserviste.
Ou Max Weber n'était pas juif.
A fait ses cours.
Oui.
Oui, il n'était pas juif.
Oui.
Ou un Hermann Cohen,
oui.
avec germanité et judéité, donc évidemment, était pour la Première Guerre mondiale,
oui.
du côté allemand, alors
oui.
que Ernst Bloch souhaitait de tout son cœur plutôt une défaite
oui.
de l'Allemagne. Il était francophile. Il a même collaboré entre 17 et 19 à Berne à un journal anti-Kaiser, qui était le journal de l'opposition
oui.
anti-Kaiser allemande en Suisse.
On y reviendra.
Voilà pour la paix, pour la question de la paix, ou du pacifisme.
Merci Arnaud Münster. Alors, je rappelle le titre du livre d'entretien que vous avez réalisé, traduit et introduit, et que vous publiez aux éditions Hermann, sous le titre Ernst Bloch, du rêve à l'utopie. Je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation. Merci encore.
Oui.
C'était Talmudic, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Philippe Palares à Paris et Pierre Schwab à Nice, à la réalisation d'Annie Journaud. Vous retrouverez tous les détails concernant notre invité sur le site de l'émission Koltouv, Leitraut, au revoir, bon dimanche à tous, bon Pessah, bonne fête de Pâques, à la semaine prochaine.